À moins 10, que du foie à moins 26, puis un beau soleil. Parce qu'on a resté pas mal à l'intérieur de la maison pendant ces jours-là. Eh bien, on est le premier dimanche de l'année, et j'ai pensé de regarder avec vous les choix qui sont devant nous. Et certainement, quand on conduit en auto, on se demande, surtout quand on est dans un endroit qui est étranger pour nous, quelle direction est-ce que je devrais prendre? Et c'est toujours un défi, n'est-ce pas? On a des outils maintenant, des indices, ils nous ont marqué le nom des routes, ils nous disent c'est le nord, c'est le sud, est, ouest. Ils nous avertissent quand on va tourner, ils nous ont donné des cartes géographiques, ça l'a aidé, si le pilote est bon. Si le pilote n'est pas trop bon pour lire une carte géographique, ça peut nous nuire. Mais, heureusement, on a les GPS. Et ils nous disent tendrement, prépare-toi à tourner gauche, droite. Ils nous-mêmes nous donnent une image sur combien de lignes il va y avoir et ça nous aide grandement. Mais si les gens ont un GPS, ils savent que bien souvent, on entend cette petite voix qui dit « recalcule ». Ce qui veut dire que malgré la technologie la plus avancée qu'on a, bien l'être humain, des fois, ne voit pas comme il faut, n'entend pas comme il faut, et il doit se reprendre. Eh bien, quand on fait ces erreurs-là en conduisant, c'est frustrant, c'est irritant. Ça peut nous coûter des heures, des fois, peut-être une journée de plus. Ça peut nous coûter de l'argent aussi, surtout avec le prix de l'essence de nos jours. Une erreur en conduisant, ça peut être difficile, coûteux. Mais il y a des choix qui ont plus d'impact que cela, n'est-ce pas? Faire une erreur en conduisant, c'est quand même pas tellement onéreux. Et on s'en remet. On s'en souvient pas une journée après. Mais quand on a 17, 18, 20 ans et on doit faire un choix de carrière, eh bien, ça a un petit peu plus d'importance, plus d'impact. Ça peut avoir une portée pour une vie. Hein? Un choix de conjoint, même chose. Ça peut avoir tout un impact sur notre vie. Un choix d'employeur, un choix d'investissement. Ceux dans les années 98 qui ont acheté des parts d'un hôtel à presque 100 $, puis ils se sont trouvés avec une action qui valait 25 sous, se sont dit ce n'était pas tellement un bon choix. Mais quand même, ce sont des choix qui nous affectent seulement ici sur cette terre. Il y a des choix qui sont encore plus importants que cela. Je me souviens, quand j'étais un jeune homme, j'ai acheté ma première auto. Eh bien, j'avais déjà décidé quelle auto c'était pour être. Et là, mon père est venu avec moi. C'était une grosse décision, ta première auto. Et il ne voulait pas trop m'influencer sur quelle sorte d'auto. Je comprends pourquoi aujourd'hui, tout le monde en famille avait la même sorte d'auto. Alors, ils étaient vendus à cette marque-là. Il n'y avait pas des Japonaises dans le temps. Puis les Japonaises qu'il y avait, eh bien, ça rouillait et ça brisait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces années-là. Alors, mais mon père voulait me conseiller, voulait me montrer comment faire pour avoir un bon prix? Alors, il était venu avec moi et avait négocié le prix de l'auto avec moi. Il m'avait, pour lui, c'était une décision, un choix important. Il voulait que j'apprenne à ne pas payer plus cher. Alors, il avait fait ça. Et même aujourd'hui, à mes 21 ans et quelques années, j'aime négocier des autos. Je pourrais aller avec Georgine. Je pense qu'on ferait une bonne paire. Georgine aime négocier. En Afrique, ça a l'air d'être la façon de faire. Et même en Asie, je crois, c'est la façon de faire. Et quand je vais à des endroits comme la baie chez Winners, je dis toujours à la caissière, on peut-tu dealer un peu, négocier? Je sais qu'elle ne peut pas. Je sais qu'elle est limitée, mais ça vous montre l'impact de ce que mon père m'a enseigné en venant avec moi pour négocier le prix de l'auto. Et quand on sait qu'un jeune homme a une grande décision à faire et qu'on est conscient que l'impact peut être grand, étant son père, sa mère, était un grand frère, était un mentor peut-être. On veut l'aider à faire un bon choix, n'est-ce pas? On n'est pas indifférent. Eh bien, il y a des choix qu'on a à prendre qui ont une portée plus grande même que la vie sur cette terre. Elle a une portée éternelle. Et nous allons regarder l'un de ces choix en examinant le livre de Josué ce matin. On n'examinera pas tout le livre de Josué. On va regarder spécifiquement un passage où Josué met un choix devant le peuple d'Israël. Mais courbons-nous, Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ce temps ensemble ce matin. Merci pour chacune des personnes qui est là. Merci parce que toi, tu es au milieu de nous. Merci parce qu'on peut louer ton nom ensemble. Seigneur, sois avec moi afin que je puisse parler fidèlement de ta parole. Et sois avec chacune des personnes ici qui ont un cœur disposé à entendre, comme si c'était toi-même qui parlais au cœur. Merci pour ta bonté et ta fidélité à notre égard. Amen. Alors, le livre de Josué, premièrement, le personnage de Josué, je dirais, de ma part, c'est un personnage un petit peu effacé. On le mentionne que trois fois dans le Nouveau Testament, et après le livre des Juges, on ne le mentionne pas beaucoup. Et je comprends pourquoi c'est un personnage effacé. C'est parce qu'il suit un grand personnage. Il y avait des grands souliers à remplir, les souliers de Moïse, n'est-ce pas? Alors, Josué, il vient de la tribu d'Éphraïm. Il a été un jeune assistant pour Moïse. Et s'il était un jeune assistant pour Moïse au début, eh bien, il l'était encore à 70 ans. Donc, il a été un jeune assistant pour Moïse pendant plusieurs années. On le voit un peu comme le commandant d'une armée contre le peuple d'Amalek. Ensuite, on le voit présent sur le mont Sinaï lorsque Dieu donne les 10 commandements à Moïse. Et dans la tente, quand Dieu vient parler à Moïse, on voit que Josué était présent. Alors, il a vu pendant toutes ces années-là la patience de Moïse, la douceur de Moïse envers son peuple. Alors, on voit qu'il est choisi par Dieu pour être le remplaçant de Moïse dans Nombre, chapitre 27, et on le revoit. Et on voit que c'est Dieu qui dit à Moïse, « Mon gars, mon homme, c'est Josué qui va te remplacer. Tu arrives à la fin de ton ministère. » Et Josué va te remplacer. Moïse, devant tout le peuple, va dire au peuple, c'est Josué qui va me remplacer. Et ensuite, un bon passage à lire, c'est quand Dieu fait venir Moïse et Josué dans Deutéronome, chapitre 34. Et je vais lire Deutéronome 34, vous pouvez aller on arrive à la fin du livre de Deutéronome et Deutéronome 34. Intéressant ça. Eh bien, je semble ne pas avoir la bonne référence. Deutéronome 34, versets 14 à 15. Hein? Puisqu'il y a juste 12 versets, n'est-ce pas? Eh bien, c'est Dieu qui dit à Moïse, « Toi et Josué, viens dans la tente ici. » Et là, la tente se remplit de fumée à cause de la présence de l'Éternel. Et il répète, il dit à Josué, « Je te consacre comme le chef du peuple d'Israël. » Alors, ça a dû être un moment assez solennel, n'est-ce pas? Le livre de Josué arrive immédiatement après Deutéronome. Ça, je suis certain. Oui. Si 14-15 n'est pas là, le chapitre 34 de Deutéronome est là. Mais Josué suit Deutéronome. Alors, c'est un livre qui arrive après que Dieu a fait sortir le peuple de l'Égypte et toute la génération qui est sortie de l'Égypte est décédée dans le désert, incluant Moïse. Donc, la génération qui est là au bord du Jourdain, prête à traverser, c'est une génération qui ont vu les prodiges de Moïse, qui ont vu les miracles qu'il a fait, mais ils n'étaient pas nécessairement là en Égypte. Mais là, ils attendent. Dieu les a gardés, a pourvu à leur survie pendant toutes ces années-là, et ils sont prêts à traverser le Jourdain. Et Josué est là pour nous raconter la traversée du Jourdain. Ils sont là pour nous raconter comment ils ont vaincu les nations, ensuite que Moïse a distribué les terres promises à chacune des tribus. Et on arrive à la fin du livre où Josué, proche de 110 ans, proche de laisser ce monde, de décéder, eh bien, comme tous les grands hommes, comme Moïse même, il veut rassembler son peuple auprès de lui. Un petit peu comme mon père voulait faire quand je suis allé négocier, mais c'était bien plus important ce que Josué faisait ici. Il voulait donner les meilleurs conseils. Il voulait même demander à tout le peuple de faire un bon choix. Alors, on voit le livre de Josué et je ne peux pas passer sans dire rien de Josué chapitre 1, les versets de 1 jusqu'à 18. Et je dirais, là aussi, on voit l'Éternel qui s'adresse à Josué et il va lui répéter la mission dans les versets 1 et 4 du chapitre 1 de Josué. Puis ensuite, il va lui dire, « Je vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Et Dieu veut rappeler à Moïse que ce qui est important, ce n'est pas la grandeur de l'homme que Moïse était, mais c'était la grandeur du Dieu qui était avec Moïse. Et il dit à Josué, « Moi, je vais être avec toi. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Tu peux me faire confiance. Moïse me fait confiance. » Et là, il va lui donner une exhortation. Il va dire, « Fortifie-toi et prends courage. » Il va le répéter au verset 6, au verset 7 et au verset 9. Et au verset 9, il dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Les mots pour encourager notre Josué afin qu'il soit capable de remplir la tâche. Et il va lui enseigner au verset, lui rappeler au verset 7 et 8 qu'il doit obéir à la loi que Moïse lui a prescrite. Il va même lui dire de la méditer. Et c'est comme si lire et méditer la parole va avoir un impact sur sa capacité d'obéir à la parole de Dieu. Et on voit au verset 16 la réponse du peuple. Et il dit, oui, nous allons te suivre. Et au verset 16, au chapitre 1, il répondit à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Et tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Et même le peuple encourage Josué avec les mêmes paroles que Dieu avait encouragées. Toute une réponse, n'est-ce pas? Je ne peux passer à travers la comparaison ou le lien qu'il y a entre le livre de Josué et le Nouveau Testament. Il y a une comparaison entre Josué et Jésus. Certainement, Josué n'était qu'un homme. Jésus était un homme et aussi un Dieu. Mais les deux avaient un rôle similaire dans le cas de Josué, c'était de délivrer leur peuple des nations qui étaient dans le pays de Canaan. Et dans le cas de Jésus-Christ, eh bien, c'était de nous sauver de la colère de Dieu. Et il y a aussi une comparaison entre la terre promise et le salut en Jésus-Christ. La terre promise a donné du repos au peuple d'Israël, et comme des raisons, le salut en Jésus-Christ nous donne un repos, une paix, et une paix et un repos permanent quand Christ reviendra sur cette terre. Alors, il y a une comparaison qui est utile dans tout cela. Et on arrive au verset, au chapitre 22, 23 et 24, c'est à la fin. Chapitre 22, il s'adresse aux deux tribus ennemies à qui Dieu avait donné une terre, l'autre côté du Jourdain. Et ensuite, au chapitre 23 et au chapitre 24, on a Josué qui fait venir tout le peuple d'Israël et il veut faire une dernière adresse au chapitre 23. Et au chapitre 24, qui est celui où, le chapitre où Josué va mettre le peuple devant un choix. Alors, on va passer assez de temps dans Josué chapitre 24, dans ce qu'on veut faire ce matin. Il y a au verset, je dirais que le choix n'est pas mis immédiatement au début du chapitre. Avant d'arriver devant le choix que le peuple juif doit faire, que le peuple d'Israël doit faire, Josué se sent obligé de donner un cours d'histoire, un brin d'histoire au peuple qui est devant lui. Et c'est ce qu'il va faire des versets 2 jusqu'au verset 13. Mais les versets 2 et 3, Josué rappelle ce que le peuple était. Et on va le lire. Alors, tout le peuple se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. » Alors, la première chose qu'il leur dit, rappelez-vous qui étaient vos ancêtres. Puis là, il n'y a pas de grandes choses très glorieuses à dire sur les ancêtres, n'est-ce pas? Il leur dit que Térakh habitait anciennement de l'autre côté et il servait d'autres dieux. Abraham, son père, c'était des idolâtres. Ils étaient comme tous les autres peuples païens qui étaient là, et ils adoraient d'autres dieux. Alors, il leur rappelle qui ils étaient. Et quand on regarde ce passage-là, on ne peut faire autrement que de penser à ce que Paul fait dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 3. Et vous n'avez pas besoin de tourner, je vais vous le lire. Où Paul dit aux Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Alors, si les ancêtres du peuple d'Israël, c'était des gens qui adoraient d'autres dieux, eh bien, dans Éphésiens, chapitre 2, Paul nous rappelle aux Éphésiens, mais à nous aujourd'hui qui lisons ces mêmes versets-là, qui nous étions. Alors, c'est important pour Josué, avant d'aller plus loin dans les versets 3 à 13, de rappeler au peuple qu'ils étaient un peuple idolâtre, un peuple rebelle, un peuple contre qui Dieu a sûrement une colère, un peuple qui ne méritait pas aucunement que Dieu intervienne. Mais Dieu a quand même pris Abraham et a commencé un peuple pour lui. Les versets 3 à 13 vont nous décrire comment ce Dieu a agi envers le peuple qu'il a choisi. Et dans ces versets-là, on va voir toutes sortes de bénédictions. On va voir comment Dieu a manifesté sa grâce envers ce peuple idolâtre. Dans les versets 3 à 4, il prend Abraham, lui donne une postérité, Isaac, Jacob, Ésaü, et donne une postérité même à Ésaü, et il envoie Jacob et ses fils en Égypte. Dans les versets 5 à 8, il dit, « J'ai envoyé Moïse et Aaron pour vous faire sortir d'Égypte. Je pris soin de vous dans le désert, et je combattus les Amoréens, Balak, roi de Moab, et j'empêchai Balaam de vous maudire. » Dans le verset 11, il dit, « Je vous fis passer le Jourdain, comme Moïse avait fait passer le peuple à travers la mer Rouge. » Eh bien, ici, on voit que Josué fait passer le peuple à travers le Jourdain un peu de la même façon. Il a mis à sec le Jourdain pour que le peuple passe. Au verset 11 et 12, « Il a combattu les ennemis du peuple et les chasseurs devant leur face. » Et à bien des endroits, on voit que c'est Dieu qui agit. Mais il va toujours exiger que le peuple prenne l'épée et aille combattre. Et au verset 13, il leur dit, « Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des vignes, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. » Il aurait pu choisir d'autres éléments dans l'historique, parce qu'on sait qu'à plusieurs reprises, le peuple s'est rebellé. On sait qu'à plusieurs reprises, il voulait retourner en Égypte, surtout au début. Mais Josué choisit la partie de l'histoire qui démontre comment Dieu a été bon à leur égard, comment Dieu a manifesté sa grâce. Et ce passage doit nous rappeler, nous aussi, Éphésiens encore, mais la suite de Éphésiens dans les versets 4 à 13. Et je vais vous lire une partie de cela. Après avoir dit que par nature nous étions des enfants de colère, comme les autres, le verset 4 commence et il dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Donc, Josué parle d'où il était. Il parle de la grâce de Dieu envers le peuple d'Israël. Et Paul, dans Éphésiens, va faire la même chose. Il va nous rappeler qui on était. Et ensuite, il va parler de la grâce qui nous est réservée. Josué démontre à tout Israël la bonté, la grâce souveraine que l'Éternel leur a montrée à travers les 500 quelques années depuis qu'il a pris Abraham de l'autre côté du fleuve. Et le peuple qui était présent ne pouvait qu'acquiescer, ne pouvait que dire « Oui, c'est vrai ». Et le brin d'histoire représentait la grâce de Dieu à l'égard du peuple que Dieu avait manifesté. Ils ne méritaient pas cette grâce qui vient de la part de Dieu. Ils avaient été rebelles, chialeux, presque à travers toute la période. Et malgré cela, Dieu les avait bénis, les avait pardonnés et avait continué de prendre soin d'eux. Eh bien, si Dieu avait été bon à l'égard du peuple d'Israël, eh bien, Dieu a été bon à mon égard et à chacun de ses enfants. Certainement, sa mort à la croix pour des pécheurs comme nous. Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Il n'a pas attendu que je sois assez bon. J'entends des fois les gens disent, « Ah, moi, je ne mettrai pas ma confiance en Jésus-Christ encore. » parce que je ne suis pas assez bon. Eh bien, ils ne seront jamais assez bons. Parce que même après avoir mis notre confiance en Christ, on n'est pas encore assez bon. Si on est juste, c'est à cause du sang de Christ. On peut être reconnaissant, on peut voir la grâce de Dieu dans son pardon pour nos péchés. Certainement nos péchés passés, n'est-ce pas? Mais qui de nous peut dire, non, moi je marche sans péché aujourd'hui? Et qui peut dire, il n'y aura pas de péché non plus demain? On sait que notre corps, notre nature pécheresse est collée à notre peau et qu'on a besoin régulièrement de venir à Christ et de confesser notre péché. Donc, on doit être reconnaissant pour le pardon de Dieu qui est arrivé, qui continue. Normand a passé plusieurs semaines sur l'importance de l'identité que nous avons en Jésus-Christ, enfant adoptif, co-héritier avec Christ. Et quoi dire de l'espérance qui nous attend? Les choses ne sont pas toujours roses, mais un jour, on va être en présence de Christ. Et les choses vont être plus que roses. Les bénédictions d'aujourd'hui pourvoient à nos besoins. Un travail, des fois, il nous l'enlève, il nous en donne un autre. Et même quand il nous enlève, on peut dire, Dieu pourvoit à nos besoins. Et dans la famille de Christ, l'entraide est une façon pour ceux qui ont plus de moyens d'aider ceux qui viennent de perdre leurs moyens. Donc, c'est Dieu qui agit à travers son Église. Et on peut même être reconnaissant à voir la grâce de Dieu, même dans la discipline, quand il nous corrige. Parce que son désir n'est pas de nous corriger, de nous punir, mais de gagner notre cœur, de nous ramener à lui. Et quoi dire de la bénédiction des frères et des sœurs à notre égard, qui sont là pour marcher auprès de nous, prendre soin, nous questionner, des fois nous brasser, mais toujours dans le but qu'on puisse s'approcher davantage de Dieu. Dieu a manifesté sa grâce auprès du peuple d'Israël, mais Dieu a manifesté sa grâce envers chacun de ses enfants aujourd'hui, d'une façon bien particulière. Il leur parle du passé, n'est-ce pas? Et ils veulent rappeler au peuple d'Israël, tous réunis devant lui, que Dieu a manifesté sa grâce. Mais il y a un message qui dépasse le passé. Parce que la grâce que Dieu a manifestée dans le passé est garante de la grâce que Dieu va continuer à nous manifester dans le futur. Et ça, c'est pas mal important. Comme un carburant, la grâce de Dieu nous permet d'avoir une vie chrétienne qui honore Dieu sans être sous un joug. Et permet que notre vie en Christ manifeste un amour dont est entièrement à Dieu, qui n'est pas partagé. Ça nous permet d'aimer notre prochain comme soi-même. Ça nous permet d'être motivés, non par l'obligation de suivre des règles, mais motivés par l'amour de Christ qui nous presse de vivre comme Christ lui-même. La grâce du passé, c'est aussi la grâce pour le futur. Et quelle joie que ce l'est. Si la vie du croyant n'était que d'obéir à certaines règles, ça serait un joug, ça serait un poids qu'on ne pourrait porter. On s'épuiserait et ça serait en même temps de l'orgueil de penser que je suis capable de suivre les règles que Dieu a établies par moi-même, par mes propres forces. Non, si je suis capable de marcher d'une façon qui honore Dieu, c'est par sa grâce. Carson avait mentionné, quand je pêche, c'est de ma faute. Quand je fais le bien, c'est Dieu qui agit en moi. Je n'ai aucun mérite pour l'obéissance, pour la bonté, la générosité envers les autres. Dans Tite, Paul va décrire cela. Tite, chapitre 2. Il va... Tite, chapitre 2, les versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La grâce est la source de notre salut. Éphésiens 2:8 nous rappelle cela. Tite nous rappelle que la grâce est la source de notre salut. Mais c'est aussi la source d'une vie chrétienne de tous les jours et ça jusqu'au retour de Christ. Et sa grâce se manifeste à chaque jour. Donc, Josué veut qu'Israël appuie leur choix sur la grâce que Dieu leur a manifestée. Il va mettre un choix devant eux, au verset 14 et au verset 15. Il veut leur mettre un choix. Mais avant de leur donner ce choix, de leur présenter ce choix, il veut leur rappeler qui ils étaient. Des adorateurs de d'autres dieux, des gens qui servaient d'autres dieux. Il veut leur rappeler comment Dieu les a pris, sans qu'ils le méritent, en a pris soin et sous sa grâce, les a amenés jusqu'à ce jour dans la terre qu'il leur avait promis. Et là maintenant, au verset 14, et si vous voulez bien le lire avec moi, maintenant, alors Josué dit « maintenant », que vous savez ces choses. Craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, verset 14, c'est comme si, comme un bon père, il veut leur donner les meilleurs conseils possibles. Craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. C'est comme s'il y avait encore chez le peuple d'Israël un attachement à servir d'autres dieux. Ils ne s'étaient pas débarrassés totalement de ce problème qu'ils avaient. Et Josué donc leur dit, il faut que vous deveniez un cœur entièrement dévoué pour l'Éternel. Un cœur qui veut servir seulement l'Éternel. Et au verset 16, il dit, c'est comme s'il donnait un choix. Mais si tu ne veux pas servir l'Éternel, eh bien, va vers d'autres dieux. Mais là, quel autre dieu? Eh bien, vous avez une panoplie de choix, là. Les autres dieux que servaient vos pères, ou ceux des nations qu'on a vaincues. Mais vous avez un choix. Mais il n'hésite pas à dire quel est son choix, et certainement dans le but d'influencer tout le peuple à prendre le même choix. Et tout de suite, à la fin du verset 15, il va dire, « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Eh bien, quelle direction allons-nous prendre? Servir les dieux que servaient vos pères ou servir l'Éternel. Au verset 17 et 18, le peuple passe l'examen d'histoire. Ils ont compris qu'ils devaient être reconnaissants envers Dieu. Ils ont compris que s'ils étaient là, que ce n'était que par la grâce de Dieu. Alors, au verset 16, ils disent, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Alors, la stratégie de Josué a fonctionné. Voici où vous étiez. Voici la grâce que Dieu a manifestée à votre égard. Vous avez un choix maintenant. Vous devez le faire librement. Mais voici ce que vous suggère de faire. Craignez Dieu. Débarrassez-vous des faux dieux et servez l'Éternel. Et le peuple, au verset 16, comme de raison, a choisi le choix que Josué avait choisi. Ils ont choisi de servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. C'est court, n'est-ce pas? C'est facile à apprendre par cœur. Mais qu'est-ce que ça implique? Alors, dans tous les domaines de notre vie, je dois servir l'Éternel. Pas juste dans des moments. Dans tous les domaines de ma vie, je dois servir l'Éternel. Je veux le servir avec mes pensées, mes réflexions quand je suis seul avec Dieu. Personne sait ce que je pense. Personne sait à quoi je réfléchis. Personne sait les valeurs que je suis en train de développer dans ma pensée. Mais je veux servir l'Éternel là où seul Dieu est capable de regarder, de connaître mes pensées. Je veux le servir avec une plus grande connaissance de qui il est et une plus grande connaissance de sa parole. Sans ça, je ne serai pas grand-chose. Je veux le servir dans mon couple, si je suis marié, dans mon célibat, si je suis célibataire. Je veux le servir dans mon rôle de parent, si je suis père ou mère. Je veux le servir comme un enfant doit le servir. Si je suis encore un enfant, un adolescent, encore à la maison, ou même à mon âge, je suis encore un enfant, même si mes parents sont partis. Mais je dois le servir comme un enfant. Je veux le servir par mon amour pour mon prochain, et en particulier les pauvres, les orphelins, les veuves. Je veux le servir dans mon église. Je veux le servir avec ce qu'il m'a donné. Mes dons, mon argent, mon temps, ou est-ce que je devrais dire ses dons, son argent et son temps? C'est lui qui me l'a donné. Je veux le servir comme employé, comme patron, comme propriétaire d'entreprise. Mais il n'y a pas de domaine qui est exclu, moi et ma maison. Je veux, nous voulons servir l'Éternel dans tous ces domaines-là. Et je veux le servir parce qu'il m'a aimé le premier et que son amour me pousse à vouloir vivre pour lui. Je ne veux pas le servir parce que je me sens obligé. Je vais m'épuiser et je ne serai jamais capable de le servir adéquatement. Je veux que mon service à l'Éternel soit motivé par un amour pour lui, parce que je saisis de plus en plus l'amour qu'il a eu pour moi. Et ça doit être ce qui me motive, ce qui me donne l'énergie, le vouloir de persévérer. Et je veux que Dieu, dans sa grâce et son amour, continue de transformer mon cœur afin d'enlever tout ce qui peut faire obstacle à le servir avec intégrité et fidélité. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est mon désir et ça doit être ton désir. On arrive au verset 19 et 20. Et des versets qui peuvent sembler étranges. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » C'est un avertissement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Josué cherche à faire ici? Eh bien, Premièrement, Josué savait que le peuple ne pouvait suivre tous les commandements de Dieu. Et nous, on comprend pourquoi. Dans le cas de Josué, dans Deutéronome, il avait été révélé, Deutéronome, à partir du verset 14 jusqu'à une bonne partie du chapitre 32, Moïse, quand il s'est adressé à, pas Moïse, mais l'Éternel, quand il s'est adressé à Moïse et à Josué, il leur avait dit, le peuple va se rebeller contre moi. Il va abandonner l'Éternel pour d'autres dieux. Et voici la conséquence de leur geste. Alors, ici, Josué ne mentionne ce qu'il sait être vrai, ce que Dieu lui a révélé. Mais nous, on sait, à cause de Romains, à cause de Galates, que la loi que Dieu avait donnée n'était pas une loi qu'on pouvait respecter tout le temps à 100%. C'était une loi pour nous amener à comprendre qu'on était pécheurs et que d'aucune façon, on pouvait mériter une réconciliation avec Dieu. Et dans un sens, Josué énonce cette vérité-là ici. Dieu, quand on lit le reste de l'histoire, va les châtier. Il va prendre une nation, il va les envoyer contre son peuple. Il va les reprendre, les châtier avec la peste, la famine, les insectes. Mais dans le creux de leur misère, Dieu, le peuple va crier à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dans sa miséricorde, dans sa grâce, il va leur faire du bien. Il va respecter l'alliance qu'il avait prise. J'aimerais qu'on lise Néhémie 9, 16 à 18. Pas besoin de retourner. Mais tout le chapitre Néhémie 9, je vous encourage de le lire. Je l'ai déjà fait ici un dimanche soir. Mais ça parle de la rébellion du cœur de l'homme, de la bonté, de la miséricorde de l'Éternel. Alors, je prends que deux versets ici. Alors, Néhémie, « Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils n'écoutèrent point tes commandements, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnes pas, même quand ils se firent un veau en fonte. » Imaginez comment est notre Dieu. Alors, Josué va leur rappeler qu'ils ne pourront suivre tous les commandements. Il va leur rappeler qu'il y a une conséquence, qu'il y a un prix à servir l'Éternel. Il ne veut pas nier la grâce de Dieu, mais il veut qu'il fasse un choix. Oui, basé sur qui il était, basé sur la grâce qui avait été manifestée à leur égard, basé sur le fait que Josué, le chef qui les avait dirigés pour plus de 30 ans, les encourageait à prendre cette décision-là, et que Josué lui-même la prenait, il veut qu'il la prenne en connaissance de cause, en ayant bien pesé le prix. Et le Seigneur nous donne ce même avertissement, n'est-ce pas? Celui qui veut être mon disciple, bien, il doit peser aussi le prix. On sait que le seul espoir est dans Jésus-Christ. Et je vais lire Romains 3, 21, qui est un passage qui nous parle de comment l'apôtre Paul avait saisi cela et voulait la communiquer, nous la communiquer. Romains chapitre 3, verset 21, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, C'est lui que Dieu a destiné par mon sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, qui est notre temps, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dans son avertissement, Josué pointe vers une nouvelle alliance, une marche selon l'Esprit, une nouvelle alliance sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Même devant l'avertissement de Josué, le peuple s'est engagé trois fois à servir l'Éternel, n'est-ce pas? C'est bien. Nous sommes au début de l'année 2014, vous le savez, et le choix est à faire pour moi et pour vous. Pour ma part, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel avec intégrité et fidélité. Et on a vu ce que l'expression « servir l'Éternel » signifiait. Depuis plusieurs années, sur mon ordinateur, il y a un écran de veille. Savez-vous ce que c'est un écran de veille? Combien savent ce que c'est? Moi, ça fait à peu près comme 30 minutes que je le sais. Pour les autres, c'est un screensaver. La référence et des fois le verset Josué 24:15 est là. Et ça me rappelle que la décision, l'engagement, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je m'engage donc à servir l'Éternel avec intégrité et fidélité, sachant que la grâce de Dieu, qui est la source de mon salut, est aussi la source d'une vie chrétienne de tous les jours jusqu'au retour de Christ. Mais c'est un choix à refaire et à se rappeler tout en sachant que ce n'est, comme j'ai dit, par la grâce de Dieu, que je peux servir l'Éternel de tout mon cœur. Mais pour vous qui êtes ici ce matin, si tu n'as pas mis ta confiance dans Jésus-Christ et t'engager de le suivre comme un disciple, eh bien, tu as un choix majeur à faire ce matin. Et il est temps de répondre à l'appel de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, toi aussi, tu es devant un choix. Et c'est celui de t'engager à le servir avec intégrité et fidélité. À le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Imprègne dans ta pensée ce verset, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Médite-le tout au long de ta journée. Et comme de raison, sache que seul par la grâce de Dieu, tu pourras pouvoir être agréable à l'Éternel. Courbons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ce passage, ce livre de Josué. Mais merci en particulier pour cette partie de verset 24-15 qui nous met devant un choix important. Un choix que nous devons faire constamment, chaque jour, chaque moment de la journée. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen.